France Inter.
Bonjour, et pour bien finir la semaine, une émission de qualité, j'espère.
Ah oui, avec une famille fort sympathique, mais un peu différente, car elle est carnivore. Dans la famille Rose, je demande la mère et le père, Chirine Boutella et Arthur Dupont.
À table !
Voilà, bah, ça promet du sang dans tous les sens. Ah oui, nous accueillir, merci beaucoup.
Non, change.
Chirine, merci Arthur d'être là. Comment allez-vous d'abord, Chirine ?
Hyper bien, ça va, trop content d'être là.
Mais ah ouais, ouais, mais je suis un bon végétarien, heureux de vous accueillir pour cette série carnivore, ouais. Cannibale. La famille Rose, c'est une série de genre. Ouais. Donc plutôt que de faire un tour de table pour savoir qui a déjà mangé quoi chez l'homme, je vais plutôt vous demander qu'est-ce qui vous fait peur au cinéma ou dans les séries. C'est les moments où on est dans une salle et on tourne la tête en se disant « Ah non, je veux pas avoir sa Mélodie
Fontaine. » Globalement, un enfant dans un couloir.
Oui, tellement d'accord.
Qui traîne un doudou derrière lui, qui traîne un doudou.
Exactement. Et figure-toi que ma fille peut faire ça et je ne peux pas y aller. T'entends maman dans le noir et tu fais « Non,
du exprès.
Et avec cette musique.
Bien sûr.
Non, même pas. C'est même pas la musique.
Non, sans musique.
C'est pire. Juste le rire de l'enfant.
Ah là là. Arrête, écoute.
Une petite berceuse qui tourne comme ça. Tu veux pas les glauques.
Bah, si, si, mais. Lisa, dès la moitié, il va falloir trouver autre chose qu'un enfant fait peur au cinéma.
Moi, c'est les clowns.
Ah ouais.
Ah bon?
Ah,
vraiment
ouais.
Ah ouais.
Pas mal aussi.
Ouais, pourtant, j'en suis devenue. Hein.
non, très sûr, non. Emma.
Moi, j'ai été trauma par une pub, mais je crois qu'elle passait au cinéma à un moment. C'était le sous les ongles d'orteil. C'est moi, le champignon.
Oui.
Tu vois,
c'est. Ah
oui.
Et ben, Daniel, il y a des mycoses souvent.
C'est moi qui faisais la pub. C'est Léla qui me les a filés.
Voilà, ça me fait trop peur. Et du coup, je crois tous les trucs qui touchent aux ongles et tout, enfin, ou je sais pas, sous les.
Ah
ouais. Ah, perdre ses ongles.
Voilà. Perdre ses ongles.
Ouais, par exemple.
Léla.
Tout me fout les chocottes en général dans les films. Donc en fait,
la dernière fois que t'as tourné la tête au cinéma. ici c'est quand Daniel te parle trop près, mais
il n'y a pas l'odeur au cinéma.
Dans la famille Rose, quand votre fille, la fille du couple, s'attaque à sa première victime.
Tu dis quoi?
S'attaque à sa première victime.
Ok.
Ouais, okay. Ça, j'avoue que j'ai eu un petit. Je me suis dit, ouf.
Bah, sur le plateau, ils ont tous fait ouf.
Ah, mince, ben, voilà.
C'était vrai, il n'y a pas de trucage. Hold the laugh.
Moi, de manière générale, dans les films, je crois que je peux tout regarder. C'est plus les replays de sport et notamment de foot quand il y a des blessures. Ça m'est insupportable.
Ah, oui.
Je ne peux pas.
Quand il s'est eu son tibia cassé.
C'est un regard. Je ne peux pas.
Moi, j'adore ça.
Le Brexitor aussi.
J'ai regardé en boucle.
Ou tu sais, le nid le Danois. Il y a 20 ans.
La rotule de côté.
Ouais. Oh là 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 là.
À Nishpool, je crois que c'était un
même
truc.
Même là, je ne veux plus regarder.
Ah ouais.
Daniel.
C'est fini, tu sais.
Ouais. Daniel.
Ah, moi, c'est presque comme notre amie Mélodie, mais moi, c'est quand c'est un doudou qui traîne un enfant dans un couloir. Là, je me dis, c'est passé un truc bizarre.
Non, et alors, comment s'appelait le film
Ouh là là.
Ça, c'est un autre film.
The Substance.
Ah, incroyable.
Non, c'est pas quoi.
Ah, si, si.
La peau, c'est juste dégueu.
Mais oui, donc,
j'ai pas vu la plus-value.
Il y a 2-3 scènes où j'ai tourné la tête, j'ai dit non, j'ai pas.
Et ben, des ongles,
il y a du pu.
C'est
quand ça attend au son. Tu dis, ok, là c'est fini.
Oh là, dans Brendan, il y a du plus partout.
Ouais, remarque, j'ai pas regardé tous les plans. Ouais.
C'est ouais,
tu vois, ce sont un peu.
Et puis je vois
ils sont en train d'ouvrir le corps et ça fait.
Allez, yes.
Ah, il est tellement content. Ouais. Là.
Ouais. Il a fait deux fois.
Et puis il ajoute une imitation à sa panoplie parce qu'il sait faire le beurre qu'ils font dans la poêle, pardon.
Ah, c'est vrai que c'est bien.
Ah, mais moins convaincu, je savais. Bon. Et puis, Yves Montand.
Alors, cette série.
Chérie, qu'est-ce qui vous fait peur au cinéma?
Eh ben, moi, c'est ce qu'on voit pas. Mais du coup, c'est vachement le son, en fait. C'est les trucs où on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver.
C'est l'équipe derrière la caméra. C'est ça qui vous fait.
Ouais. comme dans Paranormal Activity. Ça m'avait terrorisé.
Bien sûr. Quand la caméra elle tourne, il n'y a rien, et elle retourne, il y a quelque chose.
Il se passe des choses, les draps se soulèvent et tout. Je trouve ça horrible.
Arthur, j'ai vu. Qu'est-ce que.
Oui. Il faut que cette idée s'arrête.
Qu'est-ce qui vous fait peur?
C'est le pire jeudi ever.
Moi, c'est dans Conjuring, par exemple, il y a la scène avec le meuble là, qu'on appelle ça, l'armoire là, comme ça.
Oh, voilà.
Et où derrière.
Ça va être long aujourd'hui.
Ouais. En meuble, je suis très mauvais. Et du coup.
Je suis suédois.
Voilà, je suis suédois. Je travaille pour une marque. Et c'est ce qu'on ne voit pas pour rejoindre ce que tu dis. Et on sait très bien que quand elle va ouvrir, il y aura plein de petites choses qui vont faire comme okay. ça. On ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Ça vous le fait hyper bien, par contre.
Ah, ça m'angoisse.
C'est quand on joue une scène qui fait peur. Est-ce qu'on a peur ?
Wow. Alors moi, je n'ai jamais...
Je n'ai jamais peur.
Si, moi, j'ai fait une scène où je devais faire peur. Parce okay. que là, dans notre série, on n'a pas vraiment de scène où on a peur.
Oui,
souvent, c'est les autres qui ont un peu
c'est
peur.
Ça, c'est ça.
Mais en tout cas, dans un film, j'ai pu faire une scène où je faisais très, très peur et il fallait vivre cette ambiance-là, y participer en étant le méchant, quoi. Et oui, c'était...
J'ai zappé Oldelaf, pardon.
Non,
c'est
pas
Ah bah alors là, tu m'as vraiment zappé.
C'est
cette soirée au bar a vraiment duré longtemps. Ouais.
Alors, moi je vais revenir le bruit du beurre qu'ils font, alors, pour te faire pardonner.
Lagui, tu rends la bouteille.
Chérine Boutella et Arthur Dupont sont nos invités. Et voici Oldelaf, votre plus grand fan.
Je suis fan de Chirine Boutella, le plus beau rayon de soleil du cinéma. Vous êtes française, algérienne, autrichienne, moi j'en doute fort. Impossible, y'a que Bernard Lavilliers qui ait autant de passeports. Je suis fan d'Arthur Dupont. Un ancien sale gosse, aujourd'hui un acteur si bon. Surtout au cinéma, les séries, la télévision. Pas trop le théâtre, c'est sûr, pas Dupont d'Avignon. Et vous êtes là ensemble pour la famille Rose. Une famille rose malade. Dit du foie qui se nécrose. C'est pas quand tu manges trop de viande humaine, non, non. C'est quand tu manges entier une carotte, un oignon. Un après-midi d'automne, on partait en famille tous les quatre dans le camion. Alors on est passé par la cambrousse, on avait le ventre vide, donc un petit homicide. C'était le bon moment pour aller bouffer des gens mignons. Mange les doigts, mange les doigts, mange les doigts. Mange le foie, mange le foie, mange le foie. C'est le chant du cuistot de la famille qui ajoute des épices et propose des mollets en dégustation. Oh, goûtez-la, goûtez-la, goûtez-la. Oh, goûtez-la, goûtez-la, goûtez-la. Allez, chante ce morceau qui frémit. Oh, qu'on coupe avec les lames qui prouvent que les cannibales sont des gourmets. Oh, au fond. Arthur Dupont, pom pom, Boutella Dupont, Dupont, pom. Arthur Dupont, pom pom, Boutella Dupont, pom pom pom. Il cuisine trop bien les oreilles et les poumons, les rotules, les coudes, le cœur, les joues, mais pas trop les champignons. Ah, je suis fan de vous après avoir vu la série. Nagui va moins nous engueuler quand on mange un rôti. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Wow. Tu vas faire pleurer. Tu vas les faire pleurer.
D'accord, je pense que je l'aime pas. Je regrette presque.
Non, là, wow. Il faut reconnaître.
Alors, ils ont de la chance.
Je t'ai pas demandé ce qui t'aime pas en cinéma. Sur OCS, cette série, La Famille Rose, série de genre, c'est suffisamment rare pour être souligné. Ils sont cannibales. Il n'y a pas de suspense de ce côté-là.
Il y a la façon dont tu l'en parles.
Ils
sont cannibales.
Il y a zéro doute. Et ils n'y peuvent rien. C'est-à-dire que c'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin pour survivre. Ouais. De se nourrir
sinon, ouais.
en mangeant, en chassant ouais. et en tuant ouais. des êtres.
Ils sont obligés de chasser parce qu'il n'y a pas de magasin de viande humaine, donc oui. du coup ils sont forcément obligés de chasser. Et puis, ils ont des règles.
Oui, règles de conduite, c'est encadré tout ça.
Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont des enfants, donc il faut que tout soit cadré et pour pas qu'on se ressente comme des sauvages, comme des monstres. Quoi.
Il y a une tension au sein du couple entre
non,
vous deux que l'on découvre au fur et à mesure parce que
il faut dire qu'elle fait tout quoi.
L'un des deux
ça suffit extrême là.
Elle a pu tenir 10 minutes quoi.
Je sais plus à quel moment on le découvre mais l'un des deux devient cannibale à cause de l'autre. Voilà, on va pas préciser
ça c'est la saison 3 ça.
Non.
Et d'ailleurs on sait pas vraiment d'ailleurs ce qui
non,
fait
en
que
fait, tout
y a
est, voilà, tout est
il y a un doute.
C'est vrai.
Même nous on sait pas. Ouais. Pour te dire.
Comment on devient cannibale
tu mens.
On sait un peu, dis-moi s'il te plaît.
Et vous êtes totalement crédible en chasseuse de proches. Non mais c'est vrai. Dans la dégaine, dans
ouais.
le comment on travaille d'ailleurs ce genre de rôle parce que c'est pas un truc qu'on apprend au conservatoire en se disant vous êtes une prédatrice. Ouais je sais pas.
Ouais je sais pas.
Vous avez regardé.
On a beaucoup bossé. Non on a beaucoup bossé avec le réal avec Enzo. On a vraiment défini le personnage. Et moi ça me semblait. Enfin vraiment c'est là pour moi c'était comment se tiendrait quelqu'un qui gère la famille, qui chasse, qui tue, qui a pas peur, qui a un sang-froid de ouf et qui en fait la survie de sa famille dépend d'elle.
Ouais, c'est ça.
Féminine, ouais. Juste, j'ai jamais cherché à avoir cette féminité.
D'accord.
En tout cas, c'était pas du tout un sujet. Au contraire, en fait, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, même leur façon de vivre, leur contexte de vie ne leur permet pas d'avoir ces petits chichis d'aller chez le coiffeur, d'aller. Enfin, pour moi, il y a pas. Enfin, même si je sais pas que c'est la féminité.
Féminité,
mais,
ouais.
Ce que je veux dire, c'est la moindre. Ouais. C'est le moindre de ses soucis, quoi.
Sentez-vous libre, on va pas juger.
Ouais. Et puis elle s'appelle Diane, c'est une chasseresse. Elle a ça dans son prénom déjà. On sait déjà. On sait que c'est elle.
Donc ouais, c'était vraiment.
Et ouais, puis l'adolescente s'appelle Lou.
Oui. Ouais. Et l'inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est elle qui chasse, c'est elle qui traque, c'est elle qui tue, non pas avec plaisir, mais qu'il fait plus volontiers, et lui, il cuisine. Donc on est vraiment sur l'inversion.
Les accessoires étaient bien aussi. Le matador, une fois que tu as mis le matador, wow, je peux te dire que tu te sens vraiment.
Le matador,
derrière,
c'est
C'est l'objet pour tuer, là. Ouais. C'est ce qu'on a dans les abattoirs, tu sais. C'est, tu mets une cartouche et c'est à air comprimé.
Ah, oui.
Comment, d'ailleurs, c'est le même que Javier Bardem dans...
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Absolument.
C'est une famille ordinaire qui a besoin de se nourrir, mais tout vient d'un problème, d'un accident, qui a été fait d'ailleurs pour éviter de tuer quelqu'un. Parce que il y a eu un geste au volant et l'espèce de camping-car, en tout cas, s'est fait totalement défoncé par un poteau et tout va venir de là, c'est-à-dire la dépanneuse, le village dans lequel vous débarquez, les alentours, le voisinage, le regard des autres. Comment passer inaperçu quand on est en marge.
Et la gendarmerie.
Eh oui.
Elle est géniale, la gendarmerie.
Ouais. Lou Adriana Bouziwan, qui est une super actrice, qui joue le Major Pilar. Elle est d'une.
Qui est la seule de la gendarmerie.
C'est oui, parce qu'on est dans
un gendarme.
Tu sens que le désert. Le désert institutionnel français, là, il est un peu mis en valeur aussi. Vraiment, la gendarmerie, elle est. Bah elle est vide, elle est toute seule et elle se démerde comme un peu.
Et elle est sur le point de fermer aussi.
Elle est sur le point de fermer parce que les seuls problèmes, c'est des disparitions d'animaux, ce qui a quand même un lien aussi dans le scénario et qui est intéressant justement, qui vient se mêler.
Il y a des meurtres en série d'animaux.
Ouais.
Et donc
des disparitions. C'est pas des meurtres, c'est des disparitions. En fait, c'est exactement, on les retrouve.
Des vols.
C'est des vols d'animaux. Et ça apparaît complètement.
Des poules, des chèvres, des chiens.
Exactement. Et ça apparaît un peu anecdotique comme ça, elle appelle son supérieur, il dit mais non mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça. De toute façon, entre guillemets, ça va fermer cette gendarmerie, donc on s'en fout un peu.
Et puis il y a la découverte de son cannibalisme par la jeune fille. C'est tout ce processus.
Non, pas la découverte, c'est-à-dire qu'elle devient majeure, elle va pouvoir tuer
sa chasse.
C'est la chasse.
Elle a hâte de se mettre. Et elle demande quand je vais pouvoir chasser.
Bah, on s'est mis d'accord entre parents.
Comme un papa le dit pour un portable, ou une maman dit « bah écoute, à 16 ans, tu auras ton portable ». Là, elle attend le jour de ses 16 ans le droit de tuer, de chasser.
Sauf qu'on dit ça à un moment donné, et puis on oublie que ça va arriver. Enfin, le père, il dit « ouais, c'est loin, 16 ans, c'est loin ». Puis à un moment donné, ça arrive, et là...
Et maman est très fière.
Maman est très contente.
Comment vous avez réagi quand vous avez lu le script la première fois?
Ah, moi, j'étais toute excitée. Je me disais, mon Dieu, ça va être fantastique à jouer. Ouais. Que ce soit pour l'histoire en elle-même, le genre et puis les personnages. Les personnages sont hyper complexes, tous. Enfin, y a vraiment beaucoup d'enjeux. Il y a plusieurs enjeux dans cette histoire-là. Parce c'est un thriller, pas... c'est la famille.
Il ne faut pas s'arrêter au cannibalisme. C'est une
vraiment un détail. Hein.
C'est ça.
C'est une famille avec des problèmes de famille.
Crise d'ado, crise de couple.
D'intégration.
Exactement. Ouais.
Et il y a deux manières de le regarder. Soit on finit par rire. Moi, il y a eu des moments, il y a eu des scènes quand même de cannibalisme où je me suis marré en disant bon, faut arrêter d'être choqué, faut arrêter d'avoir peur,
Faut s'en amuser.
Autant en rire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça devenait un code. Tu n'étais pas d'accord.
Je sais pas.
T'as pas ri.
Moi, j'ai toujours un peu les chocottes dès qu'il y a un peu de chair humaine. Donc,
J'avoue, c'est un peu compliqué à regarder parfois, mais, mais je pense que c'est aussi le but un peu de désamorcer le truc et que ce soit pas juste gore flippant. Quoi. Moi, je trouve que c'est hyper drôle. Quoi.
Il y a une histoire de la
légèreté. Ça s'équilibre hyper bien.
Et puis, il y a l'enquête. Donc, ça, c'est génial.
Et c'est surtout super bien joué. Vraiment.
Il y a le côté gore, mais avec la côté l'attention pour préparer la cuisine, pour faire des bons petits plats. C'est ça qui est
moi, c'est ça qui m'a. Moi, c'est ça qui, à la lecture, m'a fait.
Et l'annonce des plats.
Ah, bien sûr. Il y a un menu. Ouais. Moi, ce qui vraiment m'a réjoui à la lecture, c'est que c'est une série de gens. Les mecs, ils bouffent des gens. On sait que ça va être potentiellement gore avec des voilà avec tous les SFX par exactement par Accurate Dream qui est une boîte qui fait ça et qui en fait un boulot de dingue vraiment. Mais moi, ce que j'aimais, c'est le contraste avec. C'est une famille normale, avec un père qui aime faire la cuisine pour ses gamins, parce qu'il aime le goût des choses, il aime prendre le temps de transformer, il aime le rituel de se poser à table, d'annoncer attention, rognon calvados, d'allemand, par exemple, tu vois. Et après, on discute, mais comme on discute à table d'une. Ah, t'as pris de la Simmental, putain, ce que j'aime dans la Simmental, c'est parce que c'est un peu gras. Moi, j'aime, tu vois. Et là, ça va être pareil, sur de la chair humaine, mais avec la même. Vision gastronomique. Ouais. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est le contraste, en tout cas la complémentarité entre sa femme, qui elle chasse, qui est dans la méthodologie, etc. Enfin,
pragmatique. Qui cuisine très mal.
Exactement. Pragmatique, qui cuisine très mal.
Mais les deux sont dans la précision.
Et nous, on est dans la précision, exactement. Ouais. Et tout ça, on fait. C'est comme deux piliers comme ça, avec au milieu nos deux enfants, qu'on veut éduquer le mieux possible.
Et on appelle ça le vivre ensemble.
Absolument.
Il y a des enfants atypiques.
C'est la famille, quoi.
Il y a un côté aussi où tu réunis la famille, tu apportes. Enfin, le personnage apporte beaucoup de douceur, d'amour. C'est le moment vraiment où on se retrouve tous et on est à chaque fois on est joyeux quand on est autour de la table
et des enfants atypiques quand même des enfants atypiques
assez. Ah oui, oui.
Je sais pas ce qu'on a le droit de raconter.
Ah non plus, on se regarde.
Lou, il va falloir que quelqu'un
Lou à 16 ans. Lou à 16 ans, elle vit le passage à l'adolescence et avec sûrement les rencontres amoureuses.
Elle a même 13 ans au début.
Elle a 13 ans au début, même
en plus. 7 ans de moins.
Au tout début, elle a
7 ou 9.
Elle est toute petite, c'est 7 ans de moins, je crois. Ouais. C'est 7 ans plus tard.
Exactement. Et après,
il y a pas mal d'allers-retours.
Il y a une ellipse et on se retrouve où elle a 16 ans. Ouais. Donc, son premier couteau, l'ouverture à la chasse. Moi, ça m'emmerde. Elle est ravie.
Les premières fois.
Et c'est toutes les premières fois.
Normal. Et puis un petit garçon.
Ouais.
Noé.
Qui, lui, ne mange. Et lui, on lui fait pas manger de viande parce qu'on lui a dit que voilà, on dit c'est un certain âge qu'on peut commencer à manger de la viande. Donc pour l'instant, il mange des légumes.
Et personne ne dit pourquoi.
Non, mais parce que c'est une règle.
Oui, voilà, très bien.
On y projette ce qu'on veut.
Par Enzo Croisier, cette série est sur OCS. On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Lisa Delmoitier. Vous n'auriez pas fait une série comme ça, vous, sur les cannibales.
Écoutez.
Quoi ?
Officiellement, le cannibalisme, je me dois de le dire, c'est non. C'est mal.
Je suis choqué.
Engagé.
Ceci étant dit, on arrive clairement à la limite niveau production de viande, mais on a du mal à s'arrêter. Alors, pas tous les humains. Hashtag not all men. Mais personnellement, j'ai un fait pour la viande grasse. L'entrecôte, c'est ma vie. Donc je mentirais si je disais que je n'ai jamais envisagé de manger un Américain. Hein ? Désolée, mais vu le bordel qui foule sur la planète, est-ce qu'on ne les boufferait pas tous une fois pour toutes, puis on revient du bon sens ? Hein ? Je déconne, bien sûr, je ne ferai jamais ça, c'est mal. En plus, j'adore les Américains. C'est à eux qu'on doit Paul Thomas Anderson, Patty Smith et les gaufres au poulet. Mais quel peuple, quand même. Du maple syrup sur de la cuisse de poulet. Mais le sky is the limit, quoi. Après, vous mangez... On en parlera après, parce que c'est un délire. Après, vous mangez la nationalité que vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour juger, mais imaginez si un jour on y va. On traverse le Rubicon. Ouais. J'explique pour Aldelaf qui ne connaît pas ce mot. Le Rubicon, c'est une pierre précieuse complètement débile.
C'est pas un truc avec des cubes
qui bougent. C'est autre chose. Et on se dit donc, enfin, tu sais quoi ? Arrêtons avec ce tabou, mangeons-nous. Mais connaissant les tendances racistes de l'humain, d'office qu'on aura nos préférences niveau nationalité. Il y a bien des gens qui mangent du bœuf argentin, d'autres du steak wagyu. C'est japonais. En gros, c'est un bœuf qui se bourre la gueule au karaoké après une dure journée. Bon. Évidemment, on est en France, donc t'as d'office des gens qui voudront manger que de l'humain français. C'est du gigot français, monsieur. Eh oui, c'est le cul de Daniel, pour être précis. Voilà. Oh, désolé, Nagui, je mange pas d'arabe, je déteste le cumin. T'auras des dialogues comme dans Pulp Fiction. Hein. Tu sais avec quoi ils mangent de l'humain aux Pays-Bas ? La mayonnaise.
Ah, c'est dégueulasse.
Ouais, ils te mettent une tranche de gouda, une tranche de Jan van de Groot, une tranche de gouda, une deuxième tranche de Jan van de Groot. Et ils appellent pas ça le Quarter Pounder with Cheese, ça n'aurait pas de sens avec le système métrique. Ils appellent ça le Royal Jan van de Groot. N'importe quoi. J'avoue, moi, bon, j'aime la viande, hein, j'aime la chair fraîche, mais je suis toujours en conflit éthique avec moi-même. J'ai été plusieurs fois végane et puis ça lâche toujours, alors j'essaie de me renseigner. J'ai même un boucher trop mignon qui m'a proposé d'organiser une excursion dans la ferme où il s'approvisionne. Oui, il m'apprivoise. Non, c'est pas chose. Mais pour voir les conditions de vie des animaux. Et c'est soit une excursion trop mignonne, soit le début d'un film d'horreur, quand même. Elle part seule visiter un abattoir avec son boucher. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais bon, là, ça fait un petit temps que je suis payée chez mon boucher, parce que vu le prix de la viande, cette année, j'ai dû choisir. Soit je mange une entrecôte, soit je m'achète un manteau pour l'hiver. Ouais. Faudrait que je récupère la peau de vache, en fait. Mais je parle pas de ma belle-mère. J'ai pas de belle-mère, mais j'ai toujours eu envie de dire ça. J'ai l'impression qu'il faut les détester. Ça dit, mon boucher m'a expliqué que dans certaines fermes, tu en dis trop, Leïla.
Pas du tout.
Attendez. Je te mettrais bien dans de la sauce en parlant de ça. Cela dit, mon boucher m'a expliqué que dans des fermes, ils passent de la musique, surtout pour les cochons, qui sont des animaux particulièrement stressés. Tu m'étonnes qu'ils sont stressés, les porcins, ils ont la queue en tire-bouchon. Quand je vois l'angoisse que les mecs se font rien que pour la taille de leur queue, imagine l'angoisse s'ils se mettaient à bander en spirale, quoi. Il me dit aussi qu'ils mettent les cochons sur des matelas d'eau pour les détendre, éviter qu'ils se marchent dessus. Et peut-être, c'est vrai, peut-être que mon boucher me raconte n'importe quoi pour que j'achète ces rognons et que je ferme ma gueule. Ouais, Lisa, en fait, les cochons, on les masse à l'huile chaude et on leur fait fumer du CBD. Mais non. Bien sûr, d'où tu crois qu'il vient le goût fumé du bacon? Après, tout ce que je dis, c'est que peut-être la façon la plus éthique de manger de la viande, c'est de manger la viande qu'il mérite. Alors l'humain, pourquoi pas, hein. Certains mangent halal, cachère ou encore vegan. Moi, par souci éthique, je m'engage à manger que connard. Voilà. Donc dès maintenant, quand je vais chez le boucher, je lui dis, mettez-moi un morceau de jarret, mais de votre bœuf le plus misogyne, quoi. Et voilà. Il manque pas de pièces, en plus.
Merci. Vous avez moitié. La famille Rose, 6 épisodes de 42 minutes sur OCS.
C'est un super générique.
Chapelier fou, la musique.
Oui, j'adore la musique.
Super Forgan.
J'adore.
Il a fait un ciné-concert sur Le Roi et l'Oiseau il n'y a pas longtemps.
Ah ouais.
Et c'est incroyable parce que c'est un mélange électro, mais en reprenant vraiment toutes les mélodies. Ouais. Il y a des vraies cordes sur scène. Enfin, c'est un vrai mélange génial.
Ce que j'aime, c'est les titres qui vont avec. Par exemple, là, on est dans une vie paisible. Tranquille. Attention, voici le repas raté. Très bien.
Ouais, quand on foire un plat, c'est ça qu'il faut avoir là.
Il y a la musique qui s'appelle Indigeste. Et la dent dure. Sincèrement, vous avez pu remanger un carpaccio ou un tartare après la série ou pas?
Mais même à la cantoche. Hein.
Reprise.
Ah ouais. Franchement. Sans questionnement.
Après, nous on n'a pas eu le pire. Hein. Nous, on n'a pas eu le pire, je trouve, en tout
cas. Capucine Valmarie, c'est Capucine, celle qui joue Lou.
L'adolescente.
Enfin, tu vois, toi, tu cuisines, j'avoue. Bon,
c'est
cuit. Tu manipules une jambe, une demi-jambe et tout. Bon, ça passe. Va. Moi, je chasse, donc en soi, il n'y a pas ce rapport-là à la viande vraiment de manipulation.
Non, il extrait quand même.
Oui, voilà, ça, c'est pas
l'habitude. Non, mais le personnage d'Arthur extrait quand même sur le premier cœur dans la cuisine un. Je sais pas ce que c'est, le foie.
Oui, alors ça... j'extrais un foie d'un gros monsieur, sûrement misogyne, qui a un goût incroyable.
C'est vrai, ouais.
Après, vous le recollez.
Et après, je recolle. Alors, ça, ouais.
Colmate.
Ouais.
Non, mais c'est drôle.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est vraiment drôle. Il y a beaucoup de scènes drôles. Et même la manière dont Lou Adriana Bouzuan joue, elle est drôle parce que elle est gendarme. Elle a un regard un peu décalé. Ouais. On se demande ce qui se passe dans sa tête.
Elle mange tout le temps. Je sais pas si t'as remarqué.
Oui.
Dans la série, à chaque fois qu'on la voit, elle mange.
Grignote.
Le premier plan, il est génial, ce premier plan. Elle sort de la bagnole. On a un plan que sur la pomme.
Ouais.
Dans sa main, elle fait comme ça et on la suit.
Ouais.
On est donc vraiment au niveau taille, on voit que la pomme, et après on remonte sur son visage. visage. Et tout le long de la série, elle grignote des trucs. Ouais. Une tarte, un machin. Elle goûte nos plats, à un moment donné. Ouais.
Elle sent la viande.
Par contre, le vrai truc, c'est que la panne de ce camping-car, de ce bus, aménagé, vous fait tomber dans un piège. C'est-à-dire le piège d'être stable au même endroit.
Ce qui
vous sauve, c'est de passer d'une ville à l'autre et d'être en fuite permanente. Parce que on ne le dit pas non plus, mais le passé ou le passif de ce couple, on le comprend au fur et à mesure de la série. Ce qui est fort aussi, c'est que chaque épisode démarre non pas par un dans les épisodes précédents, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans, il y a 17 ans, par des flashbacks très réussis au niveau du look. Très réussi, super bien réalisé, et on comprend mieux finalement la fuite de ce couple et la manière dont ils veulent éviter en fait le passé, leur famille précédente aussi.
Et aussi pourquoi ils sont dans ces rapports-là entre eux.
Ouais.
Aussi on comprend un petit peu plus pourquoi, parce qu'on se dit ah ouais d'accord, il y a tout ce passif-là qui traîne et cette obligation entre guillemets de rester ensemble, parce qu'ils sont ils sont parmi des humains, ils sont obligés, enfin ils connaissent pas d'autres cannibales.
Ah oui.
c'est les seuls, donc ils...
Oui, mais ils les cherchent pas. Et non puis... plus ils sont pas en quête d'autres cannibales. Non,
mais je pense qu'ils ne se disent
compliqué.
Même pas
c'est compliqué
que
de faire un ami de recherche.
Que peut-être il y en a d'autres
cannibales.
Ils sont en fuite.
C'est un truc de survie. De toute façon, vu qu'ils sont obligés de laisser des cadavres derrière eux, vu qu'ils doivent se nourrir à chaque fois, tu es obligé de partir parce qu'il ne faut pas laisser de traces. Ouais. Et donc, je pense qu'ils sont un truc, effectivement, où en fait, tu vis toujours demain. Tu anticipes toujours.
Soit vous le voyez comme une comédie, soit vous le voyez comme une série d'horreur. En tout cas, c'est une série de genre. C'est réussi, c'est super bien réalisé et interprété. Chérine Boutella, Arthur Dupont, Capucine Valmarie, Lou Adriana Bouzillouane, Gaspard Meyer, Romane Boringer, qui a un rôle clé dans cette série, Victor Bonnel, Aurélie Garraud, Sacha Moyer,
Dominique Pinon
qui fait une apparition
à la fin.
Ouais, qui ouvre vers une seconde saison. Ouais.
Donc il y aura une saison 2, elle est tournée.
Un petit featuring.
Non mais on croise les doigts quand même.
Peut-être un gros featuring pour la deuxième saison.
Ouais. Arrête.
Mais peut-être.
Arrête. Mais
j'espère qu'on fait pas. On fait pas venir Dominique Pinon pour rien. Donc il va forcément avoir un gros rôle dans la saison 2.
Non, je tiens à préciser parce que
il y a un petit détail peut-être que vous avez pas remarqué.
Au tout début.
Si. Pardon.
Si
on a remarqué. On regarde quand même.
Jean, non, c'était pour voir si on avait vu.
J'ai pas vu que.
Je voulais juste préciser que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on va avoir du mal avec la série. Ouais. C'est important. Ouais. Tout le monde peut la voir, se marrer.
C'est pas sérieux de dire
être
ça.
Être choqué. C'est ce qu'elle avait dit.
Personne n'y pensait.
Il m'accuse direct. C'est elle qui a dit.
Ouais. Oh, végétarien, vous avez vu ça? Vous avez supporté ça? Oui. Je sais plus, c'est Arthur. Ouais, je sais pas qui.
On va dire
c'est Arthur.
C'est
Arthur.
Comment j'ai du bon.
Oui, exactement.
Voici Tom Baldetti.
Bravo. Beaucoup trop.
Bonjour tout le monde.
Salut.
Moi ça va, je suis troublé un peu. Ça fait 2-3 fois qu'on m'appelle monsieur. C'est les premières fois, j'aime pas. Je me sens Daniel Morin, ça me fait bizarre.
J'ai encore de la marge.
Je vais devoir traîner dans des EHPAD.
Tu sens bon quoi.
Ça fait 2 tiers en très peu de temps. Non mais je vais devoir traîner dans des EHPAD, même pas pour rendre visite, mais juste pour qu'on m'appelle jeune homme, histoire de rééquilibrer un peu quoi. Non, ça fait plusieurs fois qu'on me vouvoie, je sais pas, je prends pas l'habitude. Moi jusqu'à présent quand on me disait vous, c'est qu'on était plusieurs quoi. Mais j'accepte. Hein, écoutez, je suis vieux, quoi. Je peux enfin dire que je fais partie de la bande originale. Je réfléchissais à m'acheter un appart. Je pense que je vais m'acheter un camping-car, en fait, quoi. Je voulais commencer Stranger Things. Je vais commencer les Feux de l'amour. On m'avait dit plein de fois, tu ressembles à ton père. Maintenant, on appelle mon grand-père pour lui dire, vous ressemblez vachement à votre petit-fils. C'est pas grave, j'accepte. Emma, aujourd'hui, je suis désolé, je reprends ton format, mais j'aimerais rendre hommage à mon grand-père, quoi. Déjà, grand-père, quel joli terme, je trouve. Il a tout de grand, une grandeur d'âme, un grand cœur, de très grandes oreilles aussi, comme tous les vieux. Les vieux, c'est pas des oreilles qu'ils ont, c'est des calzones, c'est extraordinaire. Hommage à Papy Benoît qui m'écoute et qui m'appelle après chacune de mes chroniques. Il m'appelle à chaque fois alors qu'on est encore à l'antenne. Parce que Papy Benoît, il n'écoute pas France Inter ni la bande originale, il écoute juste son petit-fils. Quoi. Et c'est rare que ça arrive dans ce sens parce que les grands-parents, ce qu'ils ont de plus cher, c'est des histoires à raconter et énormément de temps. Et moi, mon activité préférée, juste après traîner dans les EHPAD, c'est écouter les histoires de mon grand-père. Quoi. Mes histoires préférées, c'est celles qu'il m'a déjà racontées. Déjà parce que j'aimerais bien être acteur un jour et que ça m'entraîne pour les castings. Pour jouer la surprise, je suis vachement rodé. Je t'ai déjà raconté cette histoire, Tom ? Non, je crois pas. Mais aussi pour voir s'il la raconte aussi bien que la fois précédente. Et à chaque fois, c'est la même intonation, même petite blague, même fausse impro. C'est lui, scène de peur de la famille, en fait. Je les aime toutes ces histoires, même les graves, même les tristes, même celles sur la guerre d'Algérie, pendant laquelle il a refusé de tenir une arme et il s'est improvisé infirmier. J'imagine que c'est plus dur de soigner que de tuer, mais il était hors de question de vivre avec le poids de cette culpabilité. La seule histoire que j'aime pas, mais qu'il raconte souvent, c'est celle où il part de son départ. Le vrai, le triste. Il en rigole pour dédramatiser, ou peut-être pour se rassurer lui ou nous, je sais pas. Quand je serai parti, vous boirez un coup à ma santé et à celle du curé. Hein. Parce que ce qu'il y a de grand chez lui, c'est aussi sa descente. Cette chronique, c'est pas la plus marrante. Comme toute connard, hein. C'est avec l'argent public qu'on paye cette merde. J'ai la Dédé du 37 en commentaire, comme en dessous de chacune de mes chroniques. Lui aussi, il en a du temps, Dédé. Il doit être grand-père, je pense. Mais j'espère que ce sera ta préférée. À toi, Papy Benoît. Merci à toi de m'avoir raconté et merci à vous de m'avoir écouté.
Ah, joli. Bravo, bravo. Vous êtes bien dans la bande originale. Voici Feu Chatterton avec Le Labyrinthe.
Découvrez le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe. Sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle. Celle d'une autre, tu te promènes celle dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte. On tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Tu crois que tu vis, mais c'est ainsi qu'on meurt. Du piège où tu es pris, tu fais une demain. Laisse-moi aller car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Le labyrinthe. S'élève enfin l'enfant qui chantait, a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
C'était le labyrinthe de Feu Chatterton dans la bande originale de Chérine Boutella et Arthur Dupont sur Inter.
Labyrinthe, c'est oui. L'impression qu'on a dans la BO, on cherche désespérément cette fichue sortie.
C'est là-bas.
Ah, ok, j'y vais.
La famille Rose sur OCS avec Chérine Boutella et Arthur Dupont qui sont nos invités.
Dupont, pas Dupont.
Non, deux, y en a deux.
Et nous allons recevoir tout à l'heure Amélie Viallet qui sera notre invitée et qui est paléanthropologue. Donc on parlera du cannibalisme. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est juste un mythe comme les vampires?
Est-ce que ça va revenir
tout à l'heure? La bande originale dans les années 90, Chérine, vous écoutiez.
Ah oui!
Didi! Qu'est-ce se passe-t-il, Lila?
Didi, bah, il se passe Didi, quoi! Didi!
La naissance!
Oui, la naissance, pardon. Moi, du coup, j'étais sur un 2-3 soleil.
Je vous avais prévenu.
L'album, il est tellement bien. Et puis, Khaled, bon, voilà. Année 90, voilà. Naissance de Chérine à Alger.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots
comment c'est Alger?
L'ambiance familiale.
Vous l'écrivez comment
Alors c'est blanc, il y a des Arabes partout. C'est comment Alger?
Il y a beaucoup d'Arabes.
Est-ce qu'il y a des Français qui foutent la merde?
Bah, j'espère qu'ils sont repartis depuis le temps,
c'est ça.
Hein Oh, sens de l'accueil.
À quoi ça?
C'est clair. Oh, wow.
À quoi ressemblait la famille en fait? Si vous deviez décrire un peu le père, mère. Dans quel contexte vous avez grandi?
J'ai grandi. Alors, votre chasse.
T'as pas honte, Daniel?
Elle est très bonne. Elle est très
jeune. Vraiment. Ouais. À cette période-là, la musique me fait penser à ma. En fait, là, cette chanson-là, ma grand-mère me la mettait et j'ai des images de moi en train de danser. Devant la radio. Et sinon, je vivais à Oran à l'époque, okay. un père militaire et une maman qui avait décidé de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants. Donc j'ai une enfance plutôt heureuse. Hein.
Ouais, ça sous-entend une éducation stricte.
Non, pas du tout.
Père militaire aussi.
Pauvre papa, désolé, pas forcément présent parce que très pris par son travail, mais une maman à l'inverse, non pas sévère.
Ancien pilote de chasse.
Absolument. Mais une maman très présente, beaucoup d'amour, donc un foyer plutôt plein d'amour, mais pas sévère, non. Donc un papa qu'on voyait un peu moins. Enfin, qu'il y avait quand même un truc assez militaire dans sa façon de donner des ordres. Même pas, il faisait pas le lit à la maison. De gérer le foyer, quoi. C'était beaucoup, je me rappelle, vraiment militaire, quoi. Ramène-moi ça, fais ci, fais ça.
Oui.
Et c'était un peu plus tard, quand j'ai grandi, un peu comme le personnage de Capucine, quoi, la petite crise d'ado, où en fait on s'affirme et puis on se dit, ah, c'est pas normal. Mais voilà, plutôt une enfance heureuse.
Arthur Dupont, vous écoutiez en 90.
Tic-tac, tic-tac, tac-tac, tic-tac, tic-tac.
Waouh, je n'ai pas la réponse.
Bobby la pointe.
Tic-tac, tes cocu, qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocu. Tac-a-ca, tac-a, cuité et quitter ton quartier. Tac-a-ti-ta-quité, tac-a-ti-qué-té-toc. Tac-a-ti-ta-qué-toc,
tac-a-ti-ta-quité.
Tac-a-ti-ta-quité-toc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau qu'on attend t'attaquer. Contre un tac au côté, cadre et cul tout compté et quitte ton quartier. Tac-a-ti-ta-quité, tac-a-ti-ta-quité, tac-a-ti-ta-quité,
tac-a-ti-ta-quité. Vous voulez venir, n'oubliez pas les paroles.
T'as côté des catins, des catis, t'as
qui n'est un cocker.
Coupez la musique,
coupez, coupez. On va parler des sales gosses. C'est quoi les sales gosses?
Alors, juste pour cette chanson-là, je l'avais apprise en un cours de théâtre avant de rentrer dans les sales gosses. Et c'est vraiment mon premier contact avec Bobby Lapointe. Et c'était un lien entre les mots, un peu la folie, la poésie, tout ça.
Et les exercices.
Et les exercices de diction, le mec est fou. C'est très fort, Bobby Lapointe. Et c'est très drôle et tout. Et après, donc, je rentre aux sales gosses. Et les sales gosses, c'est une compagnie de théâtre professionnelle d'enfants. Et Laura Domange, elle était. On était ensemble dans la même compagnie et dans le même spectacle. Et donc, voilà, c'était 3-4 ans de ma vie où on a joué à Bobino. On a fait une tournée aux États-Unis, on a fait plein de trucs et c'est fantastique.
Ouais,
c'est
et vous avez mené une
prémonitoire sur les tocs. Prémonitoire sur les tocs.
Absolument, oui. Parce que je suis petit quai de ouf.
Ah oui,
c'est vrai. Pardon. Excuse-moi.
J'ai cru, pardon.
Pas me chauffer parce que j'oublie après que j'ai des tocs. Mais quand on me le rappelle, c'est le bordel.
Mais quel genre de tocs?
Non, mais j'ai des tics physiques, des trucs comme
aussi,
ça.
Mais
Non, mais c'est les yeux.
Oui, je cligne des yeux.
Il fait de la percue tout le temps.
Du coup, il y a beaucoup de quiproquos.
Ouais, je sais.
Tu vois, voilà.
C'est gênant.
Ouais, c'est vrai, mais je comprends.
Entre rendez-vous et plainte.
En 2007, chérie, vous écoutiez. Que se passe-t-il dans la vie de Chérine Boutella à ce moment-là?
Vous quittez l'Algérie et vous venez à Paris pour suivre des études. Quelles études?
Eh bien, figure-toi que j'ai fait cinéma et audiovisuel.
Ah.
Ouais, j'ai arrêté au bout de...
deux
heures. J'ai quand même eu ma licence. Je me suis dit, bon, allez, quand même, on justifie la présence en France. Mais en fait, je m'ennuyais vachement, quoi. C'est très théorique à la fac.
Ouais. Mais dans le but de faire quoi?
Rien, particulier. J'étais perdue, je me disais, bon, allez, on va faire des études parce qu'il faut. Et puis, voilà, donc j'ai eu ma licence et voilà. Et à cette époque aussi, je sortais, et c'est cette musique-là d'ailleurs, je sortais, les copains, la vie.
Comment s'est passée l'arrivée à Paris? Vous avez de la famille déjà?
J'ai une tante qui habitait là, donc oui, donc c'était assez simple. Mais comme je suis vraiment autrichienne, c'était plus simple, entre guillemets, et du coup, ça s'est fait très vite.
Pourquoi c'est plus simple d'être autrichienne?
Parce que je suis européenne, donc pour arriver en France,
c'est
plus simple pour les papiers.
L'accueil.
Absolument, voilà. le fameux.
Vous connaissez si bien.
Le savoir-vivre.
Le retour, voilà. Le retour de...
Arthur Dubon, vous écoutiez.
Et ben alors
l'instru.
C'est Michel Petrucciani.
C'est
magnifique.
Un génie du piano, du jazz, avec cette version de Bésame Mucho.
Ouais, en solo.
Qu'est-ce qu'elle évoque cette.
Moi, ça évoque. Moi devant mon poste de radio, là, sur TSF, j'avais un lecteur cassette, tu sais, où je pouvais enregistrer des trucs. Et en fait, j'étais tombé sur le début. Et j'attendais, je savais pas ce qui allait trop passer. Et donc, j'ai mes Térec. Après, je me le suis réécouté, ce truc-là. Et il y a un passage dans ce morceau où il monte une gamme, il la descend, et je savais pas ce que c'était. Et comme je suis musicien, donc je découvrais un petit peu le jazz, et j'étais là en me disant, mais attends, qu'est-ce qu'il fait?
C'est comment il fait ou qu'est-ce qu'il fait?
C'est juste spectateur fou en disant, ouah, c'est incroyablement très musical. Parce que en fait, c'est mélodique chez Petrucciani. On n'est pas là à se dire, je comprends pas. Je trouve qu'en tout cas, même si on n'aime pas le jazz, si on se dit qu'on n'aime pas le jazz.
Le jazz, il y a des moments où il peut y avoir des harmonies, des notes bleues un peu.
Ouais,
gênantes,
c'est très tendu, etc. Mais chez lui, souvent, je trouve que ça pourrait se chanter.
Absolument.
C'est ça qui est incroyable. Voilà.
En 2015, Chérine Boutella, vous écoutiez. يا زمان نصبح السر خلي بالك يا زمان على وقت زين بكري كي كان يا زمان tous en japonais.
C'est de l'autrichien, t'as dit.
Mais racontez-nous ce que c'est.
Oui, alors en fait, c'est la musique d'une série avec laquelle en fait j'ai commencé à jouer, quoi. Pour moi, ma carrière a commencé à ce moment-là en Algérie.
La BO.
C'est la BO d'une série qui avait cartonné qui s'appelle Khawa. Et c'était en plus, ça a révolutionné la télé en Algérie, et surtout c'était une histoire de femmes. Et ça, je trouvais ça charmé. Pour la première fois, on voyait que des meufs. Chef d'entreprise, qui gérait la famille. C'est un drame familial autour de l'héritage. Mais c'est une série qui a cartonné, qui pour moi a vraiment lancé ma carrière et qui m'a permis d'avoir un casting pour Papicha et qui en fait a tout démarré. Ouais. Quoi.
Et à ce moment-là, vous quittez Paris pour aller à Vienne.
Ouais.
pour apprendre l'allemand, puisque c'est une langue que votre mère ne vous a pas transmise.
Non, malheureusement. C'était un peu compliqué. En fait, elle voulait pas mettre de côté mon père, et mon père ne parle pas allemand. Donc, quand on allait chez ma grand-mère régulièrement, qui était à Alger d'ailleurs, qui nous parlait en allemand, ça allait, mais on a perdu ça très vite. Puis j'avais ma sœur qui était là-bas. Et donc, j'avais aussi un besoin de recommencer, de vivre des nouvelles choses. Donc, j'ai suivi ma sœur en Autriche pendant 2 ans. Et c'est là où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc, j'ai commencé à faire des tutos. Vraiment, j'étais partie des premières à le faire. On était 4 en Algérie, je crois, à le faire. Et j'ai eu un public algérien d'Algérienne, qui m'a beaucoup soutenue, qui a été très présent. Et en fait, on m'avait contactée en plus en parallèle parce qu'on m'a repérée sur YouTube, justement, grâce à ma chaîne. C'est une boîte, donc la boîte de prod qui a produit le Khawa, qui m'a dit, écoute, on a des projets qu'on aimerait faire l'année prochaine, on aimerait bien t'avoir avec nous. Et j'étais, en fait, à ce moment-là, je bossais dans un resto français qui avait fait faillite, donc il fermait. J'avais eu mon diplôme d'allemand, donc j'étais là, bon bah, on y retourne. Hein. Donc, 2 ans après, je suis retournée en Algérie et tout est parti de là.
Arthur Dupont, vous écoutiez Bobby Rafferty. À 0 instrument, que la voix.
Ah, il est trop fort.
Et au cinéma,
Jérôme Kerviel, l'Outsider, réalisé par Christophe Baratier. C'est quand même un personnage plus grand que nature déjà, Jérôme Kerviel. Mmh. Une histoire complètement folle. Est-ce que vous vous êtes demandé, j'imagine, dans quelle mesure le film était là pour raconter l'histoire, le réhabiliter, quel positionnement on adoptait face à un personnage quand même qui est en partie responsable d'une catastrophe financière dont lui dit que la responsabilité est quand même partagée. Mais
alors c'était l'adaptation de L'Engrenage, son bouquin à lui. Ouais. Donc on peut se dire que c'est son point de vue. Ouais. Donc ça décharge un peu. Et en vérité, Jérôme Kerviel, au début, il était conseiller technique. Enfin, il est venu dans les premiers jours sur le plateau parce que moi j'avais besoin de me nourrir de détails. On était dans l'open space là, vraiment de trader. Je disais, toi à ce moment-là, très concrètement, toi quand tu vois que ça chute, que ça va à la cave, comment tu réagis? Moi je m'énerve d'une manière, toi comment tu t'énerves? Juste pour choper un truc et sortir un peu de mes automatismes, on va dire. Et donc ça c'est le truc purement technique. Mais après, il a été pas évincé. On lui a demandé, c'est Christophe Baratier qui lui a demandé de ne pas venir parce que il fallait que ce soit un point de vue de réalisateur avec aussi d'autres éléments.
Ouais, une fiction, pas un doc. Ouais, voilà. La famille Rose parle de cannibalisme sur OCS. Bonjour et merci de venir à ce micro, Amélie Viallet. Vous êtes paléanthropologue. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un mythe comme les vampires?
Alors c'est complexe quand même, c'est-à-dire qu'en fait c'est un sujet qui est auréolé de tabous et qui est donc toujours étudié de façon, on va dire, un petit peu subjective. Donc c'est très clair que finalement on pourrait avoir l'impression que ça existe depuis la nuit des temps. Alors moi je suis aussi préhistorienne, hein, je travaille sur le temps long, mes terrains se situent autour de 1 million d'années, etc. Ah ouais, okay. Et on a des choses très très claires sur ces périodes-là en termes de pratiques cannibales.
Hein, Il y en a eu.
D'êtres humains qui mangent d'autres.
Ah oui, complètement.
Il y a eu des épisodes.
Voilà. Mais si on revient un peu sur l'historique, en fait, chez les Grecs anciens, il y a déjà des termes. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. On parle d'homophagie, on parle d'allélophagie. Allélophagie, c'est quand on consomme son voisin et pas quelqu'un de son groupe. Et puis, il faut attendre. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins des faits.
Je connais ou je ne connais pas ce que je mange.
Enfin, ah oui, il y a ça, voilà. C'est-à-dire, soit on mange son compère.
On peut appeler ça le circuit court.
Oui, il y a un circuit court et un circuit long, exactement. Voilà. Donc du coup, ces termes, ils ont un petit peu changé, mais ça veut dire que depuis les Grecs anciens, il y avait quand même sans doute des cas où en tout cas on a eu besoin de décrire et d'avoir des termes pour nommer ces concepts.
Vous dites que c'est tabou, ça veut dire qu'aujourd'hui il pourrait y avoir encore des personnes qui
c'est complexe,
mangent
en fait,
leurs voisins.
Oui, c'est complexe à étudier pour tout un tas de raisons, vous imaginez bien pratique, mais en plus parce que réellement il y a une espèce de transgression et par exemple Françoise Héritier, elle parlait de l'équivalent d'un inceste alimentaire. Voilà, donc c'est des termes très forts, en fait. Tout ce qui se joue là-dessous, c'est notre rapport à nous, les humains, avec les autres humains. C'est la considération de l'autre. Et puis, c'est surtout la frontière très ténue entre le sauvage, on va dire, entre guillemets, et le civilisé, entre guillemets, entre la nature et la culture. Et donc, il y a des transgressions comme ça qui se font l'un à l'autre. Je pense que ce qui se joue, c'est notre animalité, que finalement...
Mais il y a le cannibalisme de survie aussi, comme la...
On arrive à une typologie assez claire. Hein, et donc, nous, sur nos fossiles qui peuvent avoir, je vous disais, il y a une publication récente sur des fossiles en Afrique de l'Est à 1,45 million. Donc, on a les premiers humains, les premiers représentants du genre homo en Afrique à ce moment-là. Apparemment, ils consomment déjà de la chair humaine. Mais après, on a des sites très bien documentés. Donc, les sites d'Atapuerca en Espagne ou le site de Totavel en France, hein, pas très loin de Perpignan, dans lequel moi... Enfin, ce sont deux sites dans lesquels je travaille beaucoup. Et là, c'est très clair. Parce qu'on a des restes humains. Il y a 150 restes humains. Hein, ça veut dire fragments, parce que justement, ils ont été fracturés. Ce sont souvent des jeunes individus. Bon, là, ça pose question, évidemment.
C'est meilleur.
Sans doute.
C'est un peu ce que vous évoquiez là, en plaisantant. Ça donne lieu. Mais ça aussi, je trouve que c'est un trait intéressant. C'est que je pense que peut-être la série, il faudrait savoir, mais elle est basée un peu là-dessus. C'est-à-dire que souvent, dans nos sociétés, et la nôtre en ce moment, qui est un peu quand même liberticide, qui est un petit peu sur la bien-pensance, etc., très contrôlé, et bien en fait, on retourne vers la préhistoire, on retourne vers des concepts qui sont très fantasmés, qui sont plus ou moins documentés, parce que ce sont des espaces de liberté. Et en fait, parler de cannibalisme, comme on le fait dans la série peut-être aussi, c'est une forme un peu d'exutoire, justement, de cette histoire de notre animalité qu'on a en nous, qu'on assume ou qu'on n'assume pas.
Mais c'est ce qu'on dit dans la création des monstres, en fait, on met dans les monstres tout ce qui nous a fait peur, qu'on a rencontré par le passé, et on crée dans cette coquille-là quelque chose qui à la fois nous met à distance mais nous rappelle qu'on y est passé. Donc les monstres qui mangent des hommes, on en a plein.
Origine, Totavel, notre longue histoire avant Néandertal, vous l'avez signé en collaboration avec Emma Bowes.
Oui, qui est aussi la réalisatrice d'un documentaire qui porte à peu près le même nom.
Très bien. Et le livre est publié aux éditions Albin Michel. Merci Amélie.
Merci.
Voici Emma Beaujean.
Tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au stand-up. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. C'était Emma Beaujean. Eh oui, le stand-up, quelle merveilleuse invention également. Mais moi, grâce au stand-up, je travaille avec mes problèmes. C'est-à-dire que je transforme mes problèmes en oseille. C'est incroyable, non? Alors attention, enfin, quand je dis problème, je parle évidemment de mes petits problèmes du quotidien. Je parle pas des trucs que ma psy appelle un problème qui n'en sont pas vraiment. Genre, par exemple, ce besoin irrépressible qu'on parle de moi. Tu vois, le fait d'être persuadé que tout le monde veut me baiser. Ou encore mon incapacité absolue à avoir un vrai travail. Genre, tout ça n'a rien à voir avec le stand-up. Abdelhaf, regarde pas mes seins, s'il te plaît, quand je te parle. Mes yeux. Le stand-up, c'est un moyen d'expression, surtout pour nous, les femmes. En fait, on branche un micro, on dit des trucs. Si c'est marrant, ça vous touche. Et si c'est pas marrant, vous nous traitez de grosses putes. Et vous dites que les femmes ne sont pas drôles. Voilà. Mais c'est vrai, quand on parle dans un micro face à un public, surtout si le public est attentif, on découvre assez vite qu'on peut pas dire que de la merde non plus. On le découvre à ses dépens. Hein. Moi, la première fois que j'ai pris le micro, j'ai dit. Mais on en parle du poisson pané ou quoi, la team? Vous avez vu ce truc là? Ça ressemble pas du tout à un poisson, mais peut-être il est vraiment pané, genre. Après ça, un silence abyssal. J'ai entendu une mouche voler dans la pièce d'à côté, mais du coup j'ai fait ce que tout le monde fait dans ce cas-là. Merci beaucoup, vous étiez super, merci beaucoup. Voilà, c'était ça, la fin du sketch. Après ce triomphe, du coup je suis allée boire une bière, mais pas un demi. Putain, comment t'appelles ça déjà? Tu sais, le truc la taille au-dessus du demi, un énorme tonneau. Voilà. Et alors, ce qui marche fort en ce moment dans les comedy clubs, c'est de l'impro. Mais moi, c'est pas mon fort à la base. Nelson, mon fort. Alors ça, voilà, par exemple, c'était pas écrit dans le texte et c'est de la pure merde. Du coup, il faut que je m'entraîne. Alors, je me dis, vous allez être mon premier rang. Impro. Par applaudissement, il y en a qui sont nés en Égypte ou quoi? T'es né en Égypte? Attends, mais t'es Nagui ou quoi? Ah ouais, t'es vraiment Nagui. Merde. Il est sympa, le pharaon, avec le nez là, il est de profil ou de face sur les photos, on sait pas, le nez qui a failli tomber comme le sphincter, merde, ok, pardon, on a, et
Et toi, tu t'appelles comment
Moi, bah, Oldelaf.
Je t'ai demandé ton nom, pas ton personnage préféré d'Astérix et les Vikings. Applaudissements qui est en burn-out, Lisa applaudit. Applaudissements qui s'est déjà fait doigter à la cafette de Radio France. Alors, j'ai arrêté les comédies clubs parce que moi, sincèrement, je l'ai trop mal vécu. J'ai ni la bouche ni les épaules pour, mais je reste fan de mes collègues stand-uppers et surtout stand-uppeuses. Le plus génial, en vrai, dans le stand-up, c'est que chaque bar se transforme en comédie club. C'est-à-dire que tu marches dans la rue et tu passes du trottoir à la scène. C'est l'ultra-démocratisation de la parole, le stand-up. Tout le monde a son mot à dire. Et même si beaucoup d'artistes méprisent encore cet art qui, selon moi, est un des plus complets. Alors, cet hommage, en vrai, il est pour les rappeurs et les rappeuses du théâtre. Ceux qui n'abandonnent pas, et même devant trois personnes dans une cave, un mardi à 17h, c'est à vous que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Emma, bonjour. Tanguy, bonjour. De quoi allons-nous parler ?
Eh bien, de Rennes, la ville des Bretons ivres, avec 40 piercings, des trans musicales, précisément. Il y a eu une petite polémique.
Parfait. La famille Rose, c'est sur Ciné Plus OCS. Nos invités, Chirine Boutella et Arthur Dupont, sont avec nous jusqu'à midi. La bande originale de votre vendredi, oui. C'est reparti avec nos invités du jour, Leïla Kadour-Boudadi et Daniel Morin. On a qui aujourd'hui ?
La famille Rose, mais presque au complet, avec Chirine Boutella et Arthur Dupont, ça va saigner.
Ça fait longtemps que je ne suis pas fait un petit tiercé.
La famille Rose, Chérine Boutella, Arthur Dupont à l'affiche de cette série réalisée par Enzo Croisier. C'est sur OCS avec, en toile de fond, parce qu'il ne faut pas s'arrêter, je pense, au cannibalisme. C'est simplement...
Non, je t'en détaille.
Non, mais c'est vrai que c'est un point de départ, mais c'est simplement, on peut voir aussi le prisme d'une famille pas forcément bien accueillie. Les gens du voyage, on ne les connaît pas, ils sont décalés par rapport aux autres. Le regard de ceux qui ont leurs habitudes, slash ceux qui ont une autre manière de vivre. Évidemment qu'on est dans, par moments dans l'horreur ou la comédie. On peut éclater de rire quand on voit quelqu'un se faire vider pour être mangé à table avec du cognac. Je ne sais plus quelles sont les recettes, mais enfin les noms de recettes que vous donnez sont assez drôles et réussis. On peut voir aussi la manière dont une adolescente jouée par Lou Adriana, qui s'appelle d'ailleurs Lou.
C'est
Capucine qui joue Lou, et il y a Lou Adriana Bouzioane qui joue la gendarme.
Ne le jugez pas, il est fatigué.
Donc Capucine jouant Lou, la manière dont elle attend finalement de grandir, attend de devenir adulte et attend d'être comme maman, c'est-à-dire d'être Diane la chasseresse et elle aussi, de se demander comment elle va attaquer sa première proie. Et d'ailleurs, elle hésite et elle se demande si oui ou non elle va se jeter sur lui ou pas. Et ces moments de flottement là, on imagine qu'il se passe plein de trucs dans sa tête.
Ouais, en même temps, c'est une adolescente, donc on se dit qu'on pourrait transposer la première fois, à tuer, à la première fois à
amour.
Ah oui, c'est un désir.
C'est le vrai désir.
Ouais. C'est une pulsion.
Il y a ça en parallèle aussi. C'est là où on voit effectivement toutes les premières fois en même temps et elle a été formée pour ça. On comprend toute sa vie, elle a attendu ça en fait. Ouais. C'est son moment. Ouais.
Ça, c'est la musique de la famille Rose, donc à partir de la semaine prochaine sur OCS. Invité avec nous, Chérine et Arthur, jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pastureau.
Ça va, les amis ?
Oui !
Est-ce qu'on rigolerait pas encore un peu avant la prochaine guerre mondiale ?
Yes.
La réponse est si. Moi, j'ai ri tout le week-end. Déjà, j'étais sur scène, donc j'ai ri parce que j'ai eu la chance d'entendre mes propres blagues et que clairement, je suis irrésistible. J'étais en Haute-Savoie, un coin incroyable où chaque aliment fait 2000 calories. C'est-à-dire qu'une bouchée là-bas, c'est l'équivalent de 240 jus de concombre dans un bar détox de l'Est parisien. Et même dans le train, j'ai ri. Ce qui est inquiétant parce que je voyageais seul. Et je sais qu'il faut pas juger, mais en général, les gens qui rient seuls dans les transports en commun ne sont pas les plus équilibrés du cosmos. Hein, ce sont les mêmes qui, à un congrès d'ornithologie, hurlent qu'ils sont des mouettes ou qui se mettent à voter Nicolas Dupont-Aignan parce qu'ils pensent qu'il a un destin national. Pourquoi est-ce que j'ai ri ? Eh bien, comme tout le monde, grâce à Mathias Renault, qui est ma nouvelle idole. Je le kiffe. J'ai demandé à le prendre en première partie de mon spectacle, mais mon producteur m'a dit ne jamais mettre quelqu'un de trop drôle avant parce qu'il te plombe ton entrée à toi. Mathias Renault, en effet, est ce député RN qui a demandé à ce qu'on coupe les subventions des transmusicales de Rennes, connues selon lui, je cite, en tant que manifestation d'artistes transgenre, transmusical, transgenre, au lieu de bosser, il a fait le rapprochement. C'est-à-dire, quand il va apprendre que rock en scène, on peut venir sans son maillot de bain, il va être très surpris. Et qu'au festival Beau Regard, même ceux qui ont les yeux marrons peuvent entrer, ça va lui faire tout drôle. Pour lui, le printemps de Bourges, c'est un rassemblement de fils à papa. À l'entrée, il imagine qu'il y a un stand de pulls que les gens achètent pour foutre sur leurs épaules. Enfin, ce député est magique.
Alors bien sûr, tout le week-end, bah, la totalité du pays s'est foutue de lui. Enfin, un homme qui rassemble. Hein. Et sur le papier, ce monsieur n'a pas tort. Les transmusicales sont un festival transgenre, mais genre musicaux. Parce qu'il y a tout à part du baroque. Lui imaginait qu'il s'agissait de trans, donc de personnes ayant une identité de genre différente de celle de leur naissance. C'est la définition officielle. Donc il s'est dit, on va couper les subventions. La vie est simple pour ce monsieur. Des mecs sont des mecs. Barbecue, fléchette, charge mentale négative. On finance. Des filles sont des filles. Nuque qui sent bon, passion folle pour Marine Leonardi. On finance. Mais s'il y a une nuance ou une hésitation, terminer le blé, c'est la moisson. Donc les transmusicales, en deux mots, c'est un festival d'artistes émergents qui a lieu dans des salles, en intérieur, parce qu'à Rennes, en décembre, il vaut mieux, hein, comme à Rennes en mars ou à Rennes en juillet. Il y a plein d'artistes très connus qui ont démarré, comme Nirvana, mais aussi Björk, hein, la dame fofolle qui murmure et qui d'un coup se met à hurler. Plusieurs milliers de ses spectateurs sont morts de crise cardiaque. Et puis il y a du trip-hop hein, qui est passé, Portishead, Massive Attack. Vous savez, c'est cette musique, quand vous avez un F2 pourri décoré chez Ikea, vous dites à quelqu'un de monter chez vous pour un dernier verre en vous disant comment la personne va-t-elle réagir en voyant que j'ai des étagères Billy toutes moches. Vous mettez Massive Attack et là, instantanément, le lieu se transforme en antre de l'amour. Hein, les murs se mettent à transpirer, vous voyez quasiment Cupidon dans le canapé à demi à poil avec un spritz. Quoi. Seulement, tous ces artistes, au moment où ils sont passés au transmusical, étaient juste connus de 2-3 branchés. Quoi. Le genre de gars qui, à partir du moment où le groupe réunit plus de 120 personnes, vous dit « Oui, ils sont tombés dans le commercial, on est loin de l'époque de leur première démo, c'était conceptuel. C'était un CD avec aucune plage, que du silence, c'était ouf. » Exemple, j'ai regardé la programmation des trans, musicales, hein, je précise. Je ne connais pas un artiste, alors j'en ai repéré un ou deux à cause de leur nom rigolo. Exemple, Camion Bip Bip. Alors un groupe, je lis le site des trans, qui est héritier des scènes électropunk et queer. Queer, définition, aïe. Personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Aïe, 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 aïe. On va réveiller Mathias Renaud. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Zombie. Du coup, on les excuse s'ils n'ont pas l'air frais sur scène. Hein, ça revient à se produire lors d'un tribute à Garou quand on s'appelle Marie-Pierre Castra. Et enfin, j'ai trouvé un artiste qui s'appelle DJ Startup. Ah, si ça se trouve, c'est Macron, hein, sous un casque. S'il se met à crier, lever les mains pour le Groenland. Bon, c'est que c'est lui. Et sans doute, Brigitte va prendre le relais aux platines. Parce que vous avez vu, elle a commencé à mixer. Pour les pièces jaunes avec Didier Deschamps, MC Dédé. Alors tout ça pour vous dire qu'un festival de développement d'artistes en devenir, ça doit pas être le plan du siècle quand on a envie de devenir millionnaire. Ces gens dépendent des subventions à la culture qui d'ailleurs s'effondre partout. Un article du Monde du 9 juillet explique que 50% des collectivités territoriales les ont baissées, collectivités de droite comme de gauche. Voilà. Donc pour en revenir aux mots, à l'essence des mots, oui. Je pense que certains politiques, monsieur Renaud et d'autres, pourraient, au lieu de poster des milliers de vidéos sur les réseaux, étudier, travailler. Les transmusicales, ce n'est pas un festival transgenre, de même qu'un transfrontalier n'est pas quelqu'un qui hésite sur son identité pile au niveau du poste de douane. Okay, le transsibérien n'est pas un train dans lequel le contrôleur se fout de savoir si vous êtes un homme, une femme ou ce que vous voulez. Une transaction n'est pas une tentative d'aller au goal de la part d'un footballeur trans. Dans une cérémonie vaudou, quelqu'un qui entre en transe ne pénètre pas forcément une personne ayant une identité de genre différente de celle de sa naissance. Autre chose, je le dis parce que j'ai joué en Haute-Savoie, à la montagne, oui. La transhumance n'est pas ce moment où le mouton qui rejoint les alpages décide de se définir en tant que brebis. Quant à la transgenèse, ce n'est pas le détournement d'un livre religieux célèbre. Noé sur son bateau reste un mec, un vrai, qui a sauvé des girafes d'un fort épisode Cévenol. Il est temps, les amis, de lancer l'opération Un élu, un dictionnaire.
Yes. La bande originale de votre matinée sur Inter continue avec Wet Leg, Davina McCall. C'était Wet Leg, David McCall sur Inter. Le meilleur de la bande originale continue jusqu'à midi et demi.
C'est hyper fin, je pourrais bouffer un stagiaire.
Sur OCS, la famille Rose, enfin une série de genres différents. Parce que non, c'est vrai, on a des thrillers, du suspense, des comédies. Rarement quelque chose sur le l'horreur entre guillemets ou le cannibalisme. C'est très original et surtout très bien joué par Chérine Boutella et Arthur Dupont.
Parlons de la musique. Est-ce que votre groupe K est toujours d'actualité?
Non. K en fait c'était un groupe que j'avais avec un ami et on a arrêté pour justement moi parce que j'avais besoin d'écrire de nouvelles chansons.
Ouais, tout seul.
Et tout seul. Et donc là depuis j'écris plein de chansons. Il y en a 4 en mixage là.
Sur plateforme directement sur quel?
Pour l'instant, j'ai pas de label, j'envoie à droite à gauche.
Est-ce que t'as filmé les coulisses de la
préparation? Et je suis en train de filmer en ce moment.
Oui. Non, que ça interroge aujourd'hui, c'est-à-dire que sortir un album, c'est plus aussi simple qu'avant.
Moi, ce sera un premier morceau, un deuxième morceau, etc.
Il y a plein d'artistes qui font ça maintenant.
Oui, maintenant.
Mais le truc, c'est que sortir un album tout de suite, surtout sans label, c'est beaucoup d'investissement personnel.
Bien sûr.
Et donc, je préfère sortir petit à petit, avec vraiment des choix artistiques qu'on assume avec mon pote avec qui je fais ça, et on verra pour la suite, mais en tout cas voilà.
La voix d'Arthur Dupont, chanteur, c'était dans Bus Palladium. C'est gênant.
Quelle bonne émission.
Ouais. C'était des chansons composées par Yarol Poupeau. Et Yarol m'avait proposé, on se connaissait pas, il me dit bon écoute, on va bosser ensemble, est-ce que tu veux coécrire le texte? Je dis bah ouais, à fond, vas-y viens.
Super.
Et du coup on se donnait rendez-vous chez lui dans son stud et toute la nuit on écrivait.
Studio. Oui, parce que studio c'est trop long.
Non mais arrêtez. Tous ici disent dire de prod, tu vois. Donc,
non, on dit pas
absolument,
ça.
Absolument pas.
La famille Rose avec Arthur Dupe et Chérine Boutte.
Merci Nag.
Sur OCS et Belphégor.
Tout à fait.
Chérine Boutte est là, l'adaptation du roman d'Arthur Bernard. Ça sera sur M6 et sur Max.
Ouais, d'abord HBO et ensuite M6 absolument.
Et quel rôle jouez-vous?
Alors le personnage principal qui est une restauratrice d'art qui travaille au Louvre et qui rencontre ce masque voilà, qui va réveiller plein de démons.
Le Louvre a été aussi l'une des scènes d'Arsène Lupin dans lequel vous jouez.
Tout à fait. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc là c'était un peu ma revanche. J'ai pas tourné en fait moi dans Lupin au Louvre. J'y étais pas. Donc là, c'était vraiment une belle revanche. On a passé. C'est exceptionnel. Tu vois, que pour toi, bah après, c'est le soir. Il y a quand même une ambiance un peu. En plus, tu tournes Belphégor, donc c'est un peu. Pas glauque, mais voilà. Mais c'est exceptionnel.
Bah, c'est hanté.
Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très fort, mais c'est incroyable. C'est fou.
Et c'est la saison 4 d'Arsène Lupin, c'est ça?
Waouh, mais moi, je suis perdue avec les parties, les saisons, mais je crois que c'est partie 4, saison 2 ou 3. Perdu.
Et quelles envies à suivre de je sais pas, de projets que vous venez de lire ou d'être au théâtre ou...
Théâtre.
J'ai envie de quoi?
J'y vais de plus en plus. C'était pas, j'allais pas beaucoup avant, mais j'y vais de plus en plus. Et pourquoi pas? Mais là, pour le moment, c'est une petite pas pause, mais voilà, c'est un peu plus chill. Lent aujourd'hui, okay. Plus chill. Ouais.
Très bien.
Et c'est très bien, j'ai des belles sorties chez cette série, et puis Belphégor, je suis très contente.
Arthur Dupont, la musique, on sent que c'est ce qui vous occupe en ce moment, ou c'est toujours en parallèle de...
Ça a toujours été en parallèle, sauf que là, vraiment, à un moment donné, je me dis, mec, il faut concrétiser ça. J'ai pas envie que ça reste dans mon tiroir.
Mais c'est monter sur scène
Alors, je suis déjà monté sur scène avec ce projet-là, mais là, c'est sortir les morceaux. En fait... C'est des choses qui, vraiment, ces morceaux-là me tiennent vraiment à cœur. C'est pas un prétexte pour faire de la musique.
Ça serait de quelle famille musicale?
Je dirais un petit peu, comment dire. J'adore Mathieu Bogarde, par exemple. J'adore Ben Mazuet, mais j'adore aussi Claude Nougaro. Enfin, c'est de la chanson, vraiment. Et avec du groove. Et quand
les textes. Et vous faites les deux?
Et oui, je fais les deux, ouais. Je fais les deux. J'ai composé, j'ai écrit.
Au cinéma, vous serez le 15 avril 26 à l'affiche d'Une fille en or.
Avec Pauline Clément, ouais. Un film de Jean-Luc Gaget. Une comédie romantique qui est complètement décalée. Elle est décalée parce que c'est ce que disait Pauline Clément. Là, on était à un festival et elle disait c'est une comédie musicale, une comédie musicale, pardon, une comédie romantique, qui est
plus révélateur.
Absolument. Ouais, ouais. Moi, j'adorais ça. Une comédie romantique qui se veut pas du tout commerciale dans le sens où ça coche pas les cases
qu'on a l'impression d'attendre, quoi.
On comprend rien à ce que vous dites, Arthur.
Bah justement, c'est exactement une des cases, tu vois. Non, non, mais c'est-à-dire que ces deux personnages qui sont complètement inadaptés, sociaux, ils sont inadaptés les deux. Il n'y a aucune raison pour qu'ils se rencontrent et qu'ils s'apprécient. Et
ça, c'est que toutes les comédies
romantiques. Oui, mais au fur et à mesure.
Et on sait qu'à la fin, ils sont ensemble.
Oui, mais il y a un décalage. Il y a plein de personnages autour qui sont complètement farfelus. Il y a Loïc Legendre, est complètement étrange. Il y a Quentin Dolmer, qui est un personnage déjà dans la vie. Non, mais c'est vrai, il a un emploi, mais il le sait. C'est-à-dire qu'il a une personnalité.
Il a un emploi, il est bizarre.
Et qui transparaît à l'écran, et c'est génial. Ça nourrit d'une couche qui n'est pas écrite, tu vois. Et donc, il y a plein de personnages comme ça. C'est un rythme. Comment dire, c'est un peu un ovni, ce film-là, et d'une grande délicatesse.
C'est une femme qui n'a pas beaucoup de confiance en elle.
Absolument, ouais. Okay. Elle n'y a pas beaucoup d'estime de son père. Elle a un père qui l'aime pas trop, qui l'a jamais vraiment considéré. Et elle cherche un boulot, bon, et elle va faire un entretien d'embauche.
Un patron tyrannique.
Un patron tyrannique, mais surtout un patron complètement psychorigide qui se trouve habite dans la même cage d'escalier que son père. Et c'est une rencontre folle, et il va l'engager pas parce que son profil l'intéresse, mais pour une autre raison.
La famille Rose sur OCS. Chérine, en une phrase, Chérine Boutella, vous diriez que la famille Rose, c'est...
Délicieux.
Bravo, bien vu.
Et vous, Arthur?
Ah, c'est une histoire de famille.
En une phrase.
Non,
j'ai dit en une phrase.
En une phrase. Ouais.
En une syllabe. Waouh!
Il y a Chérine qui m'aurait fait. Faut pas lui demander une phrase.
Non, mais c'est une vraie équipe, hein. C'est ce que je veux dire. C'est comme chez vous, en fait. Tu vois, c'est vraiment. On
c'est une
pas
famille.
Du tout dans les
c'est une famille.
Ce que je veux dire.
Famille Rose.
C'est une famille. C'est une famille tout à fait normale, avec un régime alimentaire très étonnant.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, désolé pour nos auditeurs courageux et qui ont découvert ce matin la bande de Chiffmol, de Trouillard, de Tiroflan, de Jean Foutre, qu'est en réalité cette bande originale. Et que j'ai peur des clowns, et que j'ai la trouille des enfants morts, et que j'ai horreur des champignons de pied. Ah, c'est pas avec vous qu'on va gagner la guerre. Hein. Dommage que Nagui ait pas demandé à Aldolaf. Ah si, t'as demandé?
Ah bah non, c'est moi, j'ai pas demandé. Aldolaf, t'as peur
j'ai
de quoi?
J'ai peur de trop de mémoire, des amis.
Désolé enfin pour Nagui qui ce matin a dû faire l'émission du Plex de chez Gégen, le PMU à côté de la maison de la radio. Alors mon Nagui, c'est bientôt fini, hein, tu peux rallumer ta clope et te resservir un pastis. Je commande les entrecôtes.
Ça fait partie de la BO, ça aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique dans la famille Rose.
Il s'est battu fort, le Real, pour avoir ça avant. Il s'est battu très fort.
Et ça fonctionne. Mmh. Et c'est bien réalisé aussi, on n'a pas insisté suffisamment là-dessus. Enzo Croisier en est le réalisateur. Avec Chérine Boutella, donc, devant la caméra. Arthur Dupont, Capucine Valmarie, Lou Adriana Bouzioan, Gaspard Meyer, Romane Boringer. Là aussi, on n'a pas assez insisté sur le rôle de Romane qui est un
elle avait qu'à venir, voilà, c'est bon.
Non, mais c'est un rôle clé parce qu'elle paraît très effacée au début. Et il y a tout un jeu. Aussi, on n'a pas parlé des moyens, des vols qui sont commis, des galères.
On n'a parlé pas grand-chose.
Non, on a oublié, il y avait beaucoup de facettes. On a oublié aussi ce côté.
Il y a des disparitions qui refont surface et qui vont ouvrir des enquêtes et qui vont faire en sorte
que. Le village dans lequel ils atterrissent, le Breuil, là où ils ont cet accident, c'est un village dans lequel ils sont passés 7 ans auparavant.
Et ils ont déjà fait des trucs.
Il se trouve qu'ils ont peut-être laissé des traces de méfaits. Voilà.
Et
c'est écrit par Tigrane Rosine, pardon, parce qu'on l'a pas, je sais pas si on l'a cité.
Non.
C'est le scénariste, c'est le créateur de la série, Tigrane Rosine.
Il y a Camille Appart et Julien Gallet aussi, auteur de cette série. Voilà. Et il y a aussi toute une histoire autour des cartes postales écrites qui ont aussi une importance.
Nagui, il est
trésor. Et vous avez reçu Arthur, le prix du meilleur acteur de la compétition pour série Mania.
Ah bah dis donc.
C'est cool.
Bah voilà.
Ces petits plats.
Et franchement, je n'y croyais pas du tout parce que je me disais c'est pas un personnage spectaculaire, tu vois, épique, etc.
Et donc j'étais d'autant plus.
Non, mais ne demandez pas de réaction, Arthur, c'est bon.
Non, mais je fais ce que je veux, Daniel. Ne me touchez pas, Daniel.
Sur OCS, disponible à la demande. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci, Leïla. Merci, Daniel. Merci à toute la bande.
Et heureusement, on se retrouve lundi avec la bande au grand complet.
Il paraît que Olde va arrêter les jeux de mots.
Mais tu non.
Crois enfin, c'est ce que j'ai entendu.
Passez quand même une belle journée sur Inter et bien sûr un très bon week-end puisque.
Hey non.
Mais si.
D'où Jésus.
Belle journée, à lundi, merci.